bienvenue dans l'émission Le Mur des Verts. Je suis Gaëlle et je suis en compagnie de ma compère Léa. Quel est le sujet du jour, Léa ?
Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la chute du mur. Le 9 novembre 2009, nous avons fêté les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, le mur de verre retrace son histoire. Pour vous, interviews, documentaires et reportages font de ce symbole de l'ancienne Europe le sujet du jour. Alors Gaëlle, par quoi allons-nous commencer ?
Nous allons commencer par Pico Hebdo, l'émission des 8-12 ans, présentée par Erwan et le célèbre professeur Pavlok.
Que nous écoutons maintenant ?
Oui, tout de suite.
Pico Hebdo, présentée par Erwan et le célèbre professeur Pavlok. Pico Hebdo, l'émission des petits rigolos.
Oh, super !
Bonjour les enfants, c'est Erwan. Bienvenue à Pico Hebdo. Avec nous, le célèbre professeur Pavlok.
Bonjour les enfants.
Bonjour professeur. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Nous allons parler d'un symbole de la guerre froide, le mur de Berlin.
Avant, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la guerre froide ?
Ce conflit politique opposait l'URSS à l'est et les États-Unis à l'ouest. Elle est appelée guerre froide car ils ne se sont pas vraiment battus.
Vous nous avez expliqué ce qu'était la guerre froide, mais qu'est-ce que le mur de Berlin ?
Le mur de Berlin a été construit en 1961 pour séparer l'Allemagne en deux. En effet, il y avait un risque que le pays soit de nouveau en guerre. Donc, pour empêcher cela, une frontière séparant l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest a été construite. Vous comprenez les enfants ?
Mais qui a construit ce mur ?
Le mur a été construit par l'Allemagne de l'Est. Il mesurait 3,60 m. Au début, le mur était constitué de fils barbelés. Puis, en 1961, le mur vit le jour.
Et quelles ont été les conséquences de la construction du mur ?
Toutes les personnes essayant de passer le mur risquaient sa vie, car il était gardé par l'armée. L'Allemagne de l'Est fut complètement coupée du monde.
Et aujourd'hui, ce mur est-il toujours là ?
Non, il a été détruit. La pression des autres pays et de l'Allemagne de l'Ouest ont contribué à la destruction du mur. En effet, beaucoup d'Allemands de l'Est étaient contre et ont fait des manifestations pacifistes.
Mais c'est quoi le pacifisme ?
Le pacifisme, c'est l'action des hommes voulant la paix sur Terre d'une manière non violente.
Merci de cette précision. Et aujourd'hui, qu'en est-il du mur ?
Eh bien, en 2009, l'Allemagne fêtait les 20 ans de sa réunification. Nous venons de voir qu'à l'époque, l'Allemagne était coupée en deux. Mais, le 9 novembre 1989, le mur fut détruit, et les deux parties du pays se sont retrouvées. C'est ce qu'on appelle la réunification. Aujourd'hui, il ne reste plus que 6 morceaux commémoratifs du mur.
Eh bien professeur, merci pour tout.
Mais de rien.
L'émission est maintenant terminée, au revoir et à la prochaine émission de Pico Hebdo.
Émission très intéressante et très ludique.
Élémentaire, ma chère Gaëlle. Alors, tout de suite, nous enchaînons avec Le Mur nous conte sa jeunesse dans l'émission Monument raconte.
Bonjour tout le monde, je suis le mur de Berlin. On m'appelle le rideau de fer ou encore le mur de la honte. Voici mon histoire. Je suis née le 13 août 1961. À cette époque, je n'étais fait que de barbelés et ne mesurais que 12 km de long. Avec le temps, j'ai grandi, car la frontière que j'étais n'était pas respectée. J'ai mesuré 155 km de long et 3,60 m de haut. Comme j'étais trop maigre et trop faible, mes parents m'ont nourri jusqu'à ce que je double de volume. Et ils m'ont aussi habillé d'obstacles. Papa m'a construit des tours qui sont là pour me surveiller, et lorsque l'on touche mes habits de barbelé, les miradors sonnent discrètement. Des bacs à sable posés autour de moi n'étaient pas là pour faire des châteaux, mais plutôt pour tuer ceux qui essayaient de passer, grâce aux traces qu'ils laissaient dans le sable. Ma maman a mis des paillassons très piquants, qu'on appelait le plancher d'asperges ou la pelouse de Staline. Ils ne servaient pas à s'essuyer les pieds, mais à faire mal à ceux qui essayaient de passer dessus. D'autres bacs à sable étaient posés à côté de moi. Même le côté ouest, tout près du mur, est encore un territoire est-allemand. Par endroits, il y a donc des passages secrets. Comme papa et maman m'aimaient beaucoup, ils m'ont offert des super gadgets. Des fils, au sol, déclenchaient à la fois une sorte de pinball lumineux pour prévenir les soldats et un tir à balles réelles quand on m'attaquait. J'ai vécu ainsi pendant 29 ans, jusqu'à ce que je tombe gravement malade, le 9 novembre 1989, et meurs le 13 juin 1990.
Mais dis donc, quelle vie a-t-il eu ce mur de Berlin ?
Tout à fait. Le reportage qui suit, consacré à Birgit Kinder et à Thierry Noir, deux peintres connus grâce à leur peinture sur le mur.
Que signifient les dessins sur le mur de Berlin ? Le mur a été construit le 13 août 1961, symbole de la guerre froide en Europe. Les plus célèbres dessins sur le mur de Berlin représentent le mur de la honte. Des fresques partout sur le mur sont appelées la East Side Gallery. Il y a environ 106 peintures réalisées par des artistes du monde entier. Parmi ceux-là, la Trabant, voiture connue en Allemagne, dessinée par Birgit Kinder, artiste allemand. Ce n'est qu'en 1989 que la voiture circulait partout dans le pays, après la chute du mur. Image qui attire l'œil, car on la voit traverser le mur, symbole de liberté. Il y a aussi les fameuses têtes aux rivières représentant les Berlinois, faites par Thierry Noir, peintre français, à qui l'on doit la plus grande toile en béton du monde. Cette peinture aux couleurs vives et leur poésie mélancolique sont parmi les plus représentatifs de l'art du mur. Avril 1984, aidé par Christophe Boucher, Thierry Noir commença à peindre des fresques sur le mur. Il ne s'agissait pas d'embellir le mur, mais de le représenter. Représenter la terreur qui régnait à Berlin.
Et tout de suite, une petite page de sport avec nos deux reporters sportifs Émilie et Jérémy qui dénoncent Catherine Krabbeu, une sprinteuse d'Allemagne de l'Est, pour dopage.
Catherine Krabbeu commence sa carrière en 1988 au championnat du monde junior. Elle y remporte 5 médailles d'or. Cette sprinteuse de haut niveau, reconnue pour ses performances, a été la vedette de l'Allemagne de l'Est pendant des années. Mais toutes les meilleures choses ont une fin. En 1992, en pleine gloire, la tragédie s'abat sur cette athlète. Un test antidopage positif provoque la chute de la reine du sprint. Le clambutérol, reconnu comme produit dopant, est retrouvé dans les analyses médicales de la sportive. Catherine Krabbeu, Manuel Adair et Grit Brouwer sont suspendus un an en 1993. Les explications de Catherine, qui sont parues dans un magazine allemand, ont été claires. « Je n'ai pas utilisé de produits dopants, mais un médicament interdit, c'est un fait. Nous nous trouvions dans une phase d'entraînement très dure. Le médicament était destiné à récupérer plus efficacement de la fatigue. » Mais n'est-ce pas la définition même du dopage ? Le dopage est la pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter artificiellement ses capacités physiques ou mentales. Malheureusement, c'est après la chute du mur que la RDA utilisait le monde sportif comme vitrine pour leur propre ego. C'est peut-être pour ça que les sportifs n'étaient que des victimes d'une sorte de propagande. Effectivement, Catherine Krabbeu n'est qu'une cible parmi tant d'autres. Mais est-ce que la sprinteuse était victime et obligée de prendre des stupéfiants ou les a-t-elle pris d'elle-même ? En effet, l'Allemagne de l'Est était prête à tout pour être la meilleure dans le monde sportif. Par exemple, les entraîneurs obligeaient leurs championnes à tomber enceintes afin que leurs hormones soient développées pour plus de performances. Alors, les athlètes, victimes ou fautives ?
Et maintenant, 20 ans après la chute du mur, Berlin se replonge dans cette Allemagne séparée au cours d'une fête en honneur du passé.
Il y a de cela 20 ans, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. En Europe et ailleurs circulent de nombreuses hypothèses, des inquiétudes sur l'avenir de l'Allemagne à court et à moyen terme. Le 9 novembre 2009, en commémoration du passé, l'Allemagne organise une fête de la liberté. 20 ans après la chute du mur, Berlin s'est replongé dans le passé et s'est transformé en une Allemagne divisée. Pour symboliser la chute du mur, Berlin a de nouveau été séparé par un mur de 1000 dominos. Ces imposants dominos de 2,5 mètres de haut, pesant chacun 20 kg, ont été exposés à partir du 7 novembre dans les rues de Berlin, formant un immense mur de 1,5 km. Dès le mois de mars, 15 000 jeunes berlinois avaient commencé à les décorer dans le cadre d'un travail sur le thème « Les 20 ans de la chute du mur ». Ce 9 novembre, aux alentours de 15 heures, la chancelière accompagnée de Lech Walesa et de Mikhail Gorbatchev ont traversé le Bozebrücke, trajet d'est en ouest. Cette rencontre était axée sur les souvenirs personnels de ces événements survenus il y a 20 ans, avait annoncé Thomas de Mézières, ministre adjoint auprès de la chancelière lors de la conférence de presse du 21 octobre sur la fête de la liberté. Aux alentours de 19h30, Angela Merkel a lu son discours. Elle a parlé des heures les plus sombres de l'histoire allemande, en rendant hommage aux victimes de l'Holocauste et en rappelant que la date du 9 novembre, qui marquera le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, sera aussi l'anniversaire de la nuit de cristal de 1938, lorsque les nazis s'en étaient pris aux propriétés juives en Allemagne. Je ne peux pas me tenir devant vous aujourd'hui sans rendre hommage aux victimes de ce jour précis, a-t-elle dit lors de cette occasion particulièrement solennelle. Le soir, Lechwałęsa, figure emblématique des révoltes ouvrières contre le régime socialiste, prix Nobel de la paix, président de Pologne entre 1990 et 1995, a fait basculer le premier domino. La chute du dernier domino, une heure plus tard, a donné le coup d'envoi d'un grand feu d'artifice. Entre-temps, des stars internationales telles que Paul Van Dyk, Bon Jovi, sont apparues dans le cadre d'un vaste programme musical animé par Thomas Gottschalk.
Pour finir, en mémoire du mur, notre journaliste Erwan et son équipe se sont intéressés sur ce qui reste du mur de Berlin dans les mémoires françaises et allemandes.
Le mur tombé il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la question, 20 ans après, que reste-t-il du mur de Berlin dans les mémoires allemandes ? Nous avons donc interviewé des Allemands de tout âge pour savoir quels souvenirs ils gardent de cet événement historique et de ce monument. Sarah, jeune verrière d'Adamar, n'a pas connu le mur. Mais voici les images qui lui sont restées en tête.
Elle a deux images dans ma tête. La première image, c'était le soldat qui saute d'un mur sur le mur parce qu'il a compris que c'est le moment de le faire, sinon c'est peut-être trop tard. Et la deuxième image, c'est la chute du mur où il y a beaucoup de gens qui sont capables de grimper sur le mur, de détruire le mur. C'est un symbole de la liberté.
Franck, professeur de verrerie à Adamar, a lui connu le mur. Sa mémoire en a conservé des images très différentes.
Ja, es sind die klassischen Bilder, die also das Bild auch geprägt haben. Leute, die als
Alors,
letztes, während die Mauer gebaut wurde,
bien sûr, il a des images dans ma tête, les images traditionnelles, des personnes qui essaient encore de sauter sur le mur, comme les dernières personnes avant qu'elle ait vraiment fini. Là, il y a l'image d'une personne qui saute sur le fer de fil, le fer de fil comme dans les prisons. Et le deuxième aspect qu'il a évoqué, je crois, c'est l'image du mur qui est tellement lent et haut avec le fil de fer, avec des gardiens, des soldats qui ne laissent pas passer. Donc, à cause de ces images, il a dit que ça ne pourrait pas rester comme ça, une situation dans un pays. Il fallait changer et c'est pour ça que c'était la fin de la totalité.
Non. Du totalitarisme.
Du tout totalitarisme. Voilà, merci.
Anya est traductrice. Elle a vécu à l'Est. Anya avait 5 ans lors de la chute du mur. Voici ce qu'il évoque pour elle.
Moi, j'avais 5 ans quand le mur a tombé. Donc, je pense plutôt à mon père qui a bien vécu cette époque. Qui n'était pas du tout content avec la chute du mur. Il a dit que les personnes ont été plus sociables, plus gentilles pendant qu'il a vécu à l'ex-RDA. Donc, je suis bien influencée par mon père qui souhaite bien un système comme ça. Mais à mon avis, il ne voit pas les avantages parce qu'ils ont été isolés, ils ne pouvaient pas voyager. Et moi, à mon âge, je vois que maintenant, on peut tous découvrir.
La vie était dure en Allemagne de l'Est. C'est ce que nous confie Anya à travers une petite touche d'humour.
Et il y a une blague qui qui montre très bien l'Est et l'Ouest, ou l'Ex-Est. C'est la question, s'il y a une banane sur le mur, on peut voir, où est-ce qu'on peut voir l'Est et l'Ouest? Et la réponse, c'est là où une personne a essayé de manger la banane, ça c'est l'Est, parce qu'on n'avait pas l'ananas, les bananes en extérieur.
Notre émission se termine sur cette émouvante interview. Merci de l'avoir suivie. Ce projet a été réalisé par la classe de TIV au lycée Jean Monnet à Yzeure, promotion 2009-2010. Nous avons choisi le mur de verre comme nom pour notre radio en relation avec le mur de Berlin et notre formation de verrier. Nous remercions notre sérénissime professeur M. Vaudouin, la comédienne qui nous a accompagnés ainsi que tous les élèves ayant participé au projet.